Bonjour à toutes et à tous. Donc avant de vous parler du sujet, je vais évoquer brièvement la Fondation Rothschild, on l'appelle comme ça, pas besoin de l'hôpital. Donc c'est un ESPIC du 19e, juste à côté des Buttes-Chaumont, spécialisé tête et cou, mais ça laisse la place à quand même plusieurs services neuro, ophtalmo, ORL. Il y a même un service d'exploration cardiaque et de médecine interne. Et ça laisse la place à des parcours assez complexes, on le verra. C'est un hôpital de taille moyenne, je dirais. Il y a 1700 employés, pas mal de blocs opératoires, un peu plus d'une vingtaine. En termes d'hôpital de jour, il y a un peu moins de 100 patients par jour. Et par contre, on n'a pas beaucoup de lits relativement à l'effectif. Il y a à peu près 150 lits. Et moi, je suis un des trois ingénieurs parcours patient de la Fondation et plus spécifiquement en charge du développement des HDJ. Mon travail, c'est de faire davantage d'hospitalisation de jour et plus spécifiquement des HDJ à plusieurs étapes. Une HDJ, ça peut être considéré comme tel d'un point de vue de facturation si c'est juste un acte un peu lourd. Moi, aujourd'hui, quand je dirais HDJ, ça parle plutôt des HDJ avec au moins 4 actes pour qu'elles soient validées. Et donc, pourquoi programmer de tels HDJ? C'est difficile. Bon, c'est un peu intuitif de se dire que si on n'a qu'une journée pour mettre tous les rendez-vous, ça va être plus dur, mais ça va être plus parlant avec un exemple. Donc, on va considérer un parcours de soins qui existe vraiment. Donc, on a un patient qui est susceptible d'avoir un syndrome cérébelleux. Alors, moi, je ne connais rien en médecine, je ne sais pas si je le dis bien, mais j'ai compris qu'en tout cas, ce type de patient se présentait. Et que quand il y a une telle suspicion, le patient doit suivre le parcours de soins qui s'affiche. Donc, il a 3 examens à faire. Un examen des yeux, l'enregistrement des mouvements oculaires qui s'appelle un MOC, pour mouvement oculaire, un électromyogramme, une imagerie cérébrale. Et ces 3 examens, ils peuvent être faits dans l'ordre qu'on veut et ils doivent précéder une consultation avec un neurologue qui interprète les résultats et donne sa conclusion. Et la question qu'on va se poser, c'est qu'on a un patient qui est dans ce cas-là et il doit faire ce parcours de toute urgence. Et on va voir, en fonction du planning d'un hôpital un peu fictif, comment on va réussir à programmer ce parcours selon le type de séjour, hospitalisation complète, externe ou HDJ. Donc là, vous avez un planning fictif avec les jours de la semaine qui défilent horizontalement. Verticalement vers le bas, vous avez les horaires de la journée. Et vous voyez des petites cases de couleurs, une case bien colorée. Ça veut dire qu'il y a un créneau disponible pour l'examen considéré. Et l'examen considéré, il est signalé par la couleur, donc IRM en vert, EMG en violet, etc. ainsi de suite. Donc comment programmer le patient au plus tôt selon le type de séjour? Donc on va commencer par le plus simple, l'externe. Donc là, on suppose que le patient il a toute la disponibilité qu'on veut et qu'on peut lui mettre des rendez-vous quand on veut. Alors, on voit qu'il y a un EMG et un MOC le lundi. Bah, on prend ses places directement pour le patient. On voit qu'il y a une consultation avec le neurologue qui est libre. On pourrait la prendre, mais comme il n'a pas eu encore l'IRM, ça va pas marcher. Donc, on doit attendre le lendemain pour faire l'IRM. Et ensuite, la prochaine consultation avec le neurologue qui arrive, c'est le mercredi. Et donc, si c'était dimanche qu'on a appris l'urgence, le mercredi, on a réussi à finir le parcours de soins. Maintenant, on passe en hospitalisation conventionnelle. Et donc, on se pose la même question. Le parcours qu'on vient de citer, il marche aussi. Si le patient est vulnérable ou il a besoin d'être dans un lit, on peut le prendre à l'hôpital. Si par mercredi, j'ai marqué 3 nuits, mais c'est 2 nuits, il va rester 2 nuits à l'hôpital. Mais on voit qu'on pourrait aussi le prendre le jeudi et le vendredi. Sur 2 jours, ça suffit pour faire tous les examens. Et si on est dans une logique d'optimiser les lits, l'urgence n'est pas trop grave, on va peut-être essayer de le placer plutôt jeudi-vendredi. Et maintenant, pour la partie hôpital de jour, HDJ, les 2 parcours précédents ne marchent pas. Il faut attendre le vendredi pour avoir les 4 disponibilités le même jour. Sauf que le vendredi, ce n'est pas dans le bon ordre. L'IRM, qui est le seul qui est disponible, il est après la consultation avec le médecin, donc ça ne va pas marcher. Et donc, on doit se reporter au lundi. Et donc là, vous comprenez que pourquoi c'est difficile de programmer une HDJ? En fait, il y a plein de disponibilités, mais il faut attendre un alignement des astres, que tout soit bon pour pouvoir programmer l'HDJ. Et malheureusement, c'est bien souvent ce qui se passe. Soit l'alignement des astres il arrive trop dans le futur, dans les plannings réels, et du coup, on doit programmer le parcours de soins en externe. Ou alors, on le programme en HDJ, et puis les créneaux qui étaient vacants, on les utilise soit pas, soit pour de l'externe, mais moins grave, qui aurait pu être fait en ville à la place, par exemple. Donc, y a, même si c'est difficile, il y a quand même des... Il y a plein d'hôpitaux qui programment des hospitalisations de jour. Et je ne fais pas de généralité, mais j'ai exposé ce que j'ai compris de comment c'est fait la plupart du temps. Et pourquoi est-ce qu'on pourrait faire mieux ? Donc, comment c'est fait habituellement ? Déjà, ça passe par la prescription. Donc, les médecins qui prescrivent des HDJ, si on parle donc les HDJ avec 4 actes au moins, eh ben, habituellement, ils sont libres, ils doivent poser un diagnostic, faire un traitement, calibrer en fonction des besoins du patient, et ils choisissent les actes successivement comme ça. À la Fondation, il y a une vingtaine d'actes médicaux, examens en consultation, qui reviennent le plus souvent dans les HDJ. Et si on se donne la liberté de choisir 20 actes, puis 20 autres actes, etc., ça, on aboutit à plus de 4 800 ou 5 000, je ne sais pas si j'ai bien fait les calculs, mais beaucoup de combinaisons possibles. C'est ce qui se passe. L'année passée, à la Fondation, on a eu 1 500 combinaisons d'actes différentes dans l'année, donc beaucoup de variabilité dans les parcours. Alors que c'est des maladies qui reviennent, enfin c'est des maladies qui se ressemblent, mais 1 500 manières différentes de les traiter. Et une fois que les HDJ sont prescrites, comment elles sont traitées par les secrétariats qui programment les HDJ ? Le plus souvent, c'est une forme de pile avec des demandes qui s'accumulent et qui sont traitées les unes après les autres indépendamment. Je prends position en disant que ça c'est sous-optimal, et je vous l'illustre avec un exemple. Donc on imagine, on se met à la place d'un secrétariat de programmation qui a des demandes qui arrivent. Et la première demande reçue, c'est, là j'ai fait simple, j'ai fait que deux étapes, un bilan neuropsy et un avis neuro-ophtalmo, peu importe l'ordre. Hop, on programme ça, puis ensuite on arrive à la deuxième demande qui est un bilan neuropsy encore et une consultation médicale. Juste là, il y a la contrainte, la consultation médicale doit être après le bilan neuropsy. Et on se met à la place des programmatrices qui sont devant leurs agendas. On suppose que les agendas étaient vides pour une certaine journée. Donc la première demande, la bleue, eh ben, il faut mettre un bilan neuropsy, c'est libre le matin, on met le matin le patient de la demande 1. Et il faut un avis neuro-off, il n'y a que l'après-midi qui reste et c'est libre, on le met l'après-midi. On vient à la demande 2 et là, bilan neuropsy, il reste que l'après-midi, on le met. Et ensuite, pour la consultation médicale, on peut le mettre le matin, mais ça ne marche pas parce qu'il faut la mettre après. Et l'après-midi, ça ne marche pas parce qu'elle tombe en même temps que le bilan neuropsy. Donc on ne peut pas faire cette programmation le même jour, on est obligé de programmer le patient 2 plus tard. C'est le non-alignement des astres qui se présente. Et on se dit, c'est dommage, parce que si on avait su à l'avance les demandes, on aurait pu anticiper et mettre tout le même jour. Et bien justement, je vous ai parlé de beaucoup de variabilité au début, ça ne permet pas bien d'anticiper. Et donc, maintenant que je vous ai fait comprendre un peu la problématique qui se pose, je vais vous dire comment on essaye de faire, on est en train de faire à la Fondation pour faire mieux sur cette problématique-là en tout cas. Je vais parler de standardisation des parcours et de l'outil MIDIA, dont vous avez les cofondateurs ici, qui est précieux, qui est une des étapes indispensables de cette méthodologie. Alors, déjà, la partie parcours type. Donc, la première brique, elle est vraiment organisationnelle, c'est qu'il ne faut plus que les médecins prescrivent de manière très libre, en tout cas pour la majorité des HDJ, il faut qu'ils rentrent dans des grandes cases qui vont nous permettre d'anticiper. Et ces grandes cases, nous, on les a appelées les parcours types, qu'on peut formaliser avec... donc là, c'est des visuels issus de MIDIA. Pour l'instant, on ne parle pas de la techno, mais juste il y a les visuels qui sont comme ça, où vous avez une série d'actes médicaux qui sont utiles pour une certaine pathologie, que vous pouvez lier avec des flèches qui donnent des contraintes. S'il y a une flèche qui part d'un truc pour aller à un autre, ça veut dire que ce truc doit être fait avant celui-là. Et comme ça, on exprime clairement ce que c'est le parcours de soins. Et on le fait, nous ce qu'on a fait à la Fondation, on a demandé à tous les médecins responsables des grandes maladies qu'on traite, et on leur a dit quel type de prise en charge peut y avoir, est-ce que vous pouvez le faire rentrer dans des espèces de cases. Ça réduit un peu la liberté, mais ce qu'on fait quand même, c'est qu'on sait que tous les patients ne sont pas identiques, on propose des fois des parcours un peu plus larges, donc avec un acte qui n'est pas utilisé systématiquement, mais qui permet de recouvrir la plupart de la maladie. Par exemple, je dis n'importe quoi pour la sclérose en plaques, il y a des fois une atteinte des yeux, et ben on va mettre dans le parcours type sclérose en plaques un rendez-vous pour les ophtalmos quoi qu'il arrive, quitte à ce que quand on va vraiment programmer le rendez-vous, on se rend compte qu'il n'y a pas besoin, on le supprime. Mais ce n'est plus le même cas que tout à l'heure. Les médecins prescripteurs, ils choisissent un parcours, éventuellement ils prennent la variabilité dans ce parcours, mais ils sont restreints. Et ça, c'est précieux pour anticiper justement. Donc on se dit, ah, c'est fait des parcours moins à la carte, mais vous me voyez venir que si on fait ça, ça va faire pour faire plus d'activités, plus de patients par jour, et donc moins de délais pour les patients. Donc c'est un peu l'argument qu'on a utilisé à la Fondation. Vous allez avoir des délais plus courts, mais en rentrant dans ces cases, et puis ça, ils ont été convaincus. Donc maintenant qu'on a ces parcours types, c'est bien beau, mais pour anticiper, il faut aussi une volumétrie pour chaque parcours. On a des dizaines de parcours types et on se dit, on se place maintenant du point de vue du patient, quelle est la demande pour chaque parcours. Donc il y a différentes manières de faire, interroger les médecins sur leurs ressentis, regarder l'année précédente en fonction des données qu'on a sur le PMSI, etc. Et on peut se dire, bon, bah, ce parcours-là, il me faut 48 places dans la semaine, cet autre 35, etc. Et on peut en voir un peu trop, c'est pas grave. On se dit juste que c'est l'hôpital qui va adapter son organisation pour répondre à ce besoin potentiel. Et puis si jamais ça se présente pas, c'est pas grave, on mettra des consultations externes dans les plages qu'on avait bloquées. Mais c'est l'HDJ qui est central maintenant. Mais vous voyez que cette notion de cible, c'est pas très opérationnel, c'est juste combien il y a de patients, c'est quelque chose qui est plutôt à l'échelle du mois, de l'année, de la semaine, mais on ne sait pas exactement chaque jour combien il va y avoir de patients. Et ben là, c'est la première intervention de la brique essentielle de Media, c'est de passer d'une cible hebdomadaire, ce qu'on veut être capable de faire, ça plus les contraintes des présences de tous les intervenants. Donc chaque jour, eh ben, l'infirmière de pratique avancée de médecine hospitalière, elle n'est peut-être pas là. Il y a des présences différentes, un nombre de créneaux d'IRM différents, etc. Et donc on met les capacités de chaque jour. Et maintenant, si vous avez cette cible hebdomadaire, vous avez plein de manières de la faire. Vous pouvez faire le parcours 1 le lundi et puis tous les autres parcours mardi, mercredi, jeudi et essayer de découvrir et partir les choses. Et si vous essayez tout seul avec, là c'est un cas réel à la Fondation, du nombre de parcours qu'on a, vous n'allez pas trop réussir à mettre les parcours dans des cases qui sont réalisables, alors qu'il y aurait la place. Donc là, il y a une fonctionnalité qui a été mise récemment, et je remercie Thomas pour ça, qui permet de passer des choses de gauche, ce qu'on veut et les contraintes qu'on a, en vraiment qu'est-ce qui devrait pouvoir être faisable chaque jour. Et vous avez vu, les résultats, parfois, ils sont très multicolores, ça veut dire qu'il a trouvé quelque chose auquel vous n'auriez pas pensé. Et donc maintenant, on arrive à la question de planning. Donc on n'est plus dans la cible par semaine, on est ce jour-là, on a, je sais pas, 10 parcours avec tant de patients par parcours, on a vraiment les agendas de chacun, les horaires. Comment on fait pour programmer tout ça? Ça, c'est ce que fait un peu les secrétaires de programmation d'HDJ. Mais on essaye de le faire de manière pérenne pour proposer une organisation qui va être stable dans le temps et qui va permettre d'anticiper les demandes qui vont se renouveler chaque semaine. Bah, donc, Media, il trouve ça, c'est sa fonction. Et ça, je vous garantis, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Et il vous donne deux choses. Il vous donne d'abord les créneaux qu'il faut bloquer dans les agendas des gens. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'il y a des créneaux de couleur et pas mal de gris. Le gris, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin des médecins à ce moment-là. Ils peuvent faire autre chose, voir des patients en externe, etc. Mais si on veut que la cible de patientèle qu'on s'est fixée, on puisse l'accueillir, il faut qu'il soit libre pour l'HDJ à ces moments-là. Donc on peut le bloquer dans les agendas, et ça c'est quelque chose de pérenne, qu'on va le faire qu'une fois, et puis pour toutes les semaines suivantes, on va l'utiliser. Et ensuite, maintenant, il y a comment on programme les patients. Donc il faut qu'un patient il a un parcours cohérent qui respecte le parcours type qu'on a décrit avec les flèches, et qu'il n'ait pas de rendez-vous aux mêmes horaires. Et ça, Media le donne aussi. Et donc ça c'est une trame de programmation qui est utilisée par le secrétariat pour se dire, bon, bah, s'il y a trois bilans vertiges qui se présentent ce jour-là, eh ben, le premier, je le programme comme ça, le suivant comme ça, et le suivant comme ça, et pas autrement. Et si on fait ça, on a la place pour accueillir ces trois patients. Alors que si on avait peut-être inversé, il y aurait eu le cas de tout à l'heure, la demande 2 qui est faite avant la demande 1. Donc vous voyez, avec ça, là, on a anticipé et on a proposé l'organisation optimale. Donc, pourquoi on fait ça? Parce qu'on s'attend à ce que, grâce à cette méthodologie, on puisse faire plus d'HDJ avec les mêmes ressources. Donc, on peut l'interpréter de deux manières. Plus d'HDJ par jour, ça veut dire que les patients vont attendre moins longtemps pour avoir leur bilan, ce qui est positif. Et aussi, ça va faire plus de revenus pour l'hôpital, potentiellement, parce que les HDJ rapportent. Ensuite, maintenant, si on se place du point de vue des secrétaires qui programment les HDJ, il y a plusieurs avantages. La programmation, vu qu'elle suit une trame, en fait, ce qu'elles font habituellement dans le fonctionnement usuel, de trouver pour chaque jour, est-ce qu'il y a toutes les personnes qui sont disponibles, cette gymnastique mentale, elles n'ont plus à le faire parce que ça a été fait une bonne fois pour toutes pour les prochaines semaines au sein de l'hôpital. Donc en suivant la trame, c'est sûr que ça va marcher, on ne va pas devoir s'y reprendre à plusieurs fois en essayant plusieurs journées. Ça va faire moins d'erreurs aussi. Ensuite, ça c'est un cas réel à la Fondation, si vous avez des absences dans le secrétariat de programmation d'HDJ, comme en général c'est une compétence très spécifique, eh ben, là vous pouvez remplacer plus facilement pour continuer à programmer, parce que c'est plus facile à prendre en main. Et ensuite, bah, ça, on n'y est pas encore, mais si on gagne bien du temps en programmant des bons parcours type, ça laisse un peu de temps pour les secrétaires qu'elles fassent des parcours un peu plus à la carte dans tout ce système un peu industriel que je vous ai présenté. Bah, si on gagne du temps en secrétariat, on peut l'exploiter pour rajouter des petits actes un peu exotiques pour ce patient dont il a besoin. Et elles vont pouvoir trouver la place qui va bien dans tout le système. Et ensuite, le dernier bénéfice, il est plutôt côté patient. J'en ai pas parlé, mais Midia, je vous ai dit, ils trouvent une solution de planning qui réalise la cible qu'on s'est donnée. Mais en fait, ils font mieux, ils vous donnent l'ensemble des solutions et parmi celles-là, ils trouvent la plus optimale selon le critère que vous voulez. Et en général, on choisit le temps d'attente pour le patient, qui est une des choses, en tout cas à la Fondation, c'est une remontée qu'on a des patients. Et donc, on peut proposer l'organisation qui minimise le temps d'attente pour tous les patients. Et ça, ça va probablement être mieux que si c'était fait goutte à goutte, l'une après l'autre, comme c'est fait usuellement. Et donc bon, là c'est un peu comme au Collège de France, je vous parle de quelque chose qui est en train de se faire, mais on n'a pas encore abouti. Mais c'est très prometteur, on a des bons résultats. Pour la partie standardisation des parcours et chiffrage des cibles, je l'ai fait avec toutes les personnes concernées pour tout l'hôpital. Mais pour la partie programmation, c'est compliqué, ça demande beaucoup de changements. On s'est restreint pour l'instant à un service plus petit qui est assez indépendant du reste, le service ORL qui a un peu moins de volume. Et bah, l'année précédente, il faisait à peu près une grosse trentaine d'HDJ par semaine, des fois 40, mais souvent des fois moins, donc environ une trentaine. Et avec les mêmes personnes, sans recruter quiconque de plus, en utilisant l'optimisation de Midia, on se rend compte qu'on aurait de la place pour faire 57 HDJ. Et en plus, toutes ces HDJ-là, il y a de la demande, ça fait partie des cibles qu'on s'est données. Là, on est en train de programmer, mais comme les agendas sont déjà un peu pleins pour les prochaines semaines, on ne peut pas supprimer tous les patients et commencer demain. Donc on commence à programmer un peu dans le futur. Et on a essayé une semaine test de programmer les demandes qu'on a vraiment déjà et de rajouter des patients un peu fictifs pour voir si cette semaine, en prenant en compte des vrais congés qu'il y a, des congrès et tout, est-ce qu'on arrive à vraiment programmer. Et on arrive à en faire 45. C'est quasiment 50% de plus d'activité que ce qu'on a maintenant. On n'a pas mesuré bien le temps de programmation, mais il a été raccourci sur ces choses-là. Merci pour votre attention. Je suis à l'écoute de vos questions.